La veille, le samedi saint, pour la liturgie de Saint-Basile, nous remarquons tous les ans que la liturgie est, ou la composition de l'office, parce que la liturgie est la même, mais est beaucoup plus mystique, si je puis dire. Je ne peux pas dire qu'une liturgie est plus mystique qu'une autre, parce que c'est vraiment l'entrée dans le mystère. Donc les deux sont mystiques. Mais la densité théologique de la veillée pascale, de la veille de Pâques, donc la liturgie de Saint-Basile et les vêpres sont prodigieux. Et tous les ans, nous remarquons que notre joie la plus profonde est justement pour le samedi saint. Et le lendemain, l'exubérance de la fête, c'est la conséquence logique. C'est une exubérance normale, une manifestation de la joie. Il n'y a pas la même profondeur que la veille. Et bien, nous avons la même chose pour Noël. La liturgie de l'office des Vêpres et la liturgie de Saint-Basile qui s'en est suivie sont d'une profondeur et d'une densité que l'office de demain reprendra, bien sûr, mais pas avec la même intensité. La joie sera la même, elle n'est pas moins profonde, elle sera plus visible, plus sensible, disons. Mais celle d'aujourd'hui vient des profondeurs, des entrailles. C'est la joie la plus profonde. Celle qui vient non d'une réjouissance humaine, mais qui vient véritablement de la descente de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Il faut que vous sachiez pour ces offices que tant pour Pâques que pour aujourd'hui, comme pour la Pentecôte d'ailleurs et d'autres occasions, la liturgie de la veille, c'était un office et une liturgie de communion, un office qui était fait pour les catéchumènes. C'était un office à la suite duquel les catéchumènes étaient baptisés, ce qui avait été enregistré quelquefois pendant des années, et qui enfin étaient baptisés ce jour-là, et pouvaient le lendemain assister en plénitude dans l'église du mystère célébré dans lequel ils étaient initiés la veille. C'est la raison pour laquelle nous avons les lectures de l'Ancien Testament que nous avons entendues tout à l'heure. La lecture de l'Ancien Testament était les dernières initiations, les derniers textes choisis parce qu'ils annonçaient immédiatement, ils préfiguraient immédiatement le mystère de la venue du Sauveur dans le monde et le mystère de notre incorporation au Sauveur par le baptême. Donc l'évêque, puis les prêtres, dispensaient tout un enseignement aux catéchumènes. On leur disait ce qui allait les attendre, ce qu'ils avaient déjà étudié avant, bien sûr, mais là, c'est le dernier saut, en quelque sorte, de l'initiation chrétienne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons conservé ces lectures, l'éveil de fête. Il faut toujours avoir cela à l'esprit, non pas pour faire de l'archéologie liturgique, qui en soi ne nous intéresse pas, mais pour que nous nous trouvions en communion avec tous ceux qui ont vécu comme nous, mais dans des circonstances particulières, ces offices. Par l'office, tout à l'heure, nous étions en communion avec tous ceux qui ont été baptisés le jour de la paramonie de Noël. Nous avons entendu les mêmes paroles que les mêmes initiations. Et dans les chants qui suivent ou qui s'intercalent entre les lectures, c'était des hymnes dans lesquels on exprimait notre foi et notre joie dans le mystère dont on avait la préfiguration dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, et dont on, à travers les chants des psaumes, à travers ces compositions poétiques, liturgiques, nous est entré dans une dimension, parce qu'il n'y a que avec la prière, il n'y a que la poésie qui peut exprimer une réalité qui est supérieure à ce monde. Un traité théologique nous donne la logique d'une pensée nous permettant de comprendre un tout petit peu quelque chose des saints mystères. Mais la poésie, elle part des images, par des symboles, par des correspondances de mots, par des jeux de mots, si vous voulez, par une danse entre les mots et des réalités qu'on connaît par ailleurs. Bien sûr, pour les comprendre, il faut connaître un peu l'Ancien Testament et évidemment le Nouveau. Mais si on ne connaît pas le Nouveau, je ne sais pas si on peut se dire chrétien. Pour pouvoir vibrer à toute cette mélodie spirituelle. Ces lectures et les compositions liturgiques qui les entourent sont comme les cordes d'une guitare, d'un piano, d'une harpe. Les cordes sont différentes les unes des autres, n'ont pas les mêmes couleurs, n'ont pas les mêmes longueurs, n'ont pas les mêmes épaisseurs, pas toujours la même matière. Mais si l'instrument est bien accordé, quand vous tirez une de ces cordes-là, toutes les autres vibrent en même temps. Et dans les mystères liturgiques, il en va de même. Un mot, une phrase, une lecture, un geste, immédiatement saisi, nous fait par là même vibrer toutes les autres cordes, toutes les autres harmonies dans notre cœur. Et ceci n'est pas qu'une expérience individuelle qui nous revient à chacun de faire, c'est une expérience en Église. C'est-à-dire que chacun de nous représentons aussi ces cordes différentes les unes des autres. Et quand l'une de ces cordes, chacun d'entre nous, vibre à l'unique mystère, à l'harmonie qui est célébrée en ce moment, toutes les autres cordes vibrent en même temps. Et ça qui nous fait le bel orchestre de l'Église. Ça qui fait de nous un seul corps, dont la tête, nous le savons, est le Christ. Tout de même, chacun de nous vibre, chacun à sa manière, chacun avec sa sensibilité, vibre au même mystère, et aux mêmes mots, et aux mêmes images, aux mêmes sons, aux mêmes odeurs. Et à la fin de ces lectures, je parle pour aujourd'hui cette fois-ci, plus précisément, ce qui était général, ce qui précédait, et pour aujourd'hui plus particulièrement, nous avons eu comme avant-dernière lecture, avant l'évangile, les premiers versets, les 15 premiers versets de l'épître dont nous avons failli ne pas connaître l'auteur, de l'épître aux Hébreux. Mais c'est peut-être le Saint-Esprit qui a soufflé à sœur Mélanie le trou qui lui faisait ne pas dire de qui il s'agissait. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas qui est l'auteur de l'épître aux Éphésiens. Aux Hébreux, excusez-moi. L'épître aux Hébreux est attribué à saint Paul, et je ne vais pas me lancer dans une discussion pour savoir, une explication pour savoir qui est véritablement l'auteur. C'était reconnu comme étant saint Paul, parce que l'esprit de ce qui est révélé dedans correspond tout à fait à l'esprit des épîtres de Paul. Certains pensent que ça peut être saint Jean aussi. Certains pensent aussi que c'est peut-être une homélie. Et peut-être même une homélie de saint Jean, justement. C'est pas impossible. Je prends pas parti, j'étudie pas ça, je suis pas spécialiste pour ça. C'est pas... Mon but n'est pas là. Mais en lisant cette épître, je ne pouvais pas ne pas, justement, sentir vibrer une autre corde de ce que nous lisions dans les saintes Écritures et qui correspond tout à fait à la fête d'aujourd'hui. Demain, on s'appesantira davantage sur l'aspect historique, j'allais dire théâtral, mais dans le théâtre sacré, évidemment, dans le théâtre du salut. Je ne parle pas de cirque. Mais demain, on verra quelque chose de manière plus théâtrale. L'enfant dans la crèche, l'âne et le bœuf. On l'a déjà évoqué aujourd'hui. Aujourd'hui, on est entré davantage dans le mystère de l'incarnation. Et dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament que nous avons entendu aujourd'hui, qui aboutit à Saint Paul, on a, dans ces premiers versets, on a dit que les 15 premiers, on pourrait lire, et je vous encourage à le faire, les versets suivants aussi, d'ailleurs toute l'Épître. Si elle est un sermon, si elle était une homélie, elle est tout à fait dans le sens de la révélation johannique de Saint Jean, de qui est Dieu. Dans l'Ancien Testament, on nous annonçait la venue d'un autre roi, d'un sauveur, d'un oin, d'un Christ. Et nous savons, nous, qui sommes nés après le Christ, nous savons qui est ce Christ. Nous l'avons vu, nous ne l'attendons plus, nous l'attendons encore, mais nous l'avons vu et nous le voyons. Dans l'Ancien Testament, on nous laissait prévoir, il était préfiguré. Et avec l'Épître et l'Évangile, la révélation nous est donnée, le voilà. C'est celui que vous avez sous les yeux. C'est celui qui vous est apparu. Et justement, l'Épître de Saint Paul, ses premiers versets, rappellent que déjà les prophètes avaient annoncé. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Saint Paul dit, Saint Paul, ou celui qui a écrit aux Hébreux, dit exactement la même chose. Jadis, les prophètes avaient annoncé quelqu'un qui devait venir. C'est ce que nous avons entendu tout à l'heure. Et ce quelqu'un, il nous le révèle. Et il nous dit qui il est. Comme Saint Jean, dans tous ses écrits, évangiles, épîtres ou apocalypse, nous révèle la splendeur, la gloire du Christ qui vient humblement, qui renonce à l'exercice de sa gloire divine pour s'incarner dans notre nature à nous et la prendre pour la restaurer. Tout Saint Jean se trouve là-dedans, et tout Saint Paul aussi. Et cette épître, relisez les 15 premiers versets, vous montre comment celui qui se révèle humblement dans la grotte, non seulement est celui qui avait été annoncé par les prophètes, mais il est infiniment supérieur aux prophètes. Il est infiniment supérieur aux anges. Pour comprendre, il faut bien sûr avoir une certaine expérience. Et quand je dis expérience, ça peut dire plus exactement une certaine foi de ce que sont les anges. Si on ne voit le monde comme un monde logique, scientifique, on exclut évidemment les anges, presque évidemment, pas si évidemment que ça, mais enfin on peut exclure les anges, on pourrait exclure les anges. Mais si nous vivons dans l'Église, si nous vivons de la foi, nous expérimentons aussi la présence des anges autour de nous. Vous les avez vus, vous les avez sentis, vous les avez perçus. Votre cœur a vibré, les cordes de votre cœur ont vibré à la présence des anges lorsqu'avec les prêtres, ils ont fait la grande entrée pour déposer le roi de gloire dans le royaume des cieux qui est l'autel. Quand le prêtre disait, ce qu'il ne disait pas aujourd'hui d'ailleurs, mais enfin, que la petite entrée est une concélébration dans laquelle les anges participent à notre propre entrée avec l'évangéliaire, c'est-à-dire avec le Christ. Donc, celui que nous recevons aujourd'hui, que nous voyons aujourd'hui, est infiniment supérieur à tous ces anges. Et pour cause, il est même le Créateur. Relisez, et vous verrez, cette double annonce, celle de la préfiguration vétérotestamentaire et celle de l'irruption du Sauveur dans le monde dans le Nouveau Testament. Et si cette épître était une homélie. Je ne voudrais pas ouvrir une thèse nouvelle, mais elle pourrait être aussi une anaphore. L'anaphore, les anaphores, celle de Saint-Basile ou celle de Saint-Jean-Chrysostome, que vous connaissez presque par cœur, reprennent les hauts faits, si on peut les appeler comme ça, les merveilles de Dieu, les merveilles que Dieu a faites dans le monde depuis les origines, pendant tout l'Ancien Testament, avec ce renouveau, ce renouvellement de son incarnation, qui est une reprise de la création, une restauration de la création. Raison pour laquelle, soit dit en passant, la première lecture de l'Ancien Testament était justement les premiers jours de la création. Parce que cette création a été abîmée, a été salie, a été effacée, en quelque sorte. Mais elle reprend vie avec le Sauveur qui était le prototype, qui vient reconformer cette nature, cette icône, qui vient la reconformer à son modèle premier, à son prototype. Donc les anaphores reprennent le même plan de rappeler les merveilles de Dieu jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à la venue du Sauveur qui a pris du pain dans ses mains saintes purées et qui les a consacrées, etc. L'anaphore, c'est une action de grâce à Dieu dans laquelle on rappelle tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'accomplit et qui s'accomplit aujourd'hui. Et quand je dis qu'il s'accomplit aujourd'hui, je veux souligner par là d'autres aspects, un autre aspect que vous avez entendu pendant l'office et que vous entendrez encore cette nuit, sur l'aujourd'hui de Dieu. Beaucoup disent aujourd'hui le Christ naît, aujourd'hui le Christ apparaît, aujourd'hui. C'est capital, c'est central dans le mystère de l'Église. C'est-à-dire l'union de Dieu et des hommes. Parce que ce qui historiquement a eu lieu à une certaine date, à peu près il y a 2020 ans, à peu près, à quelque chose près, historiquement ça s'est réalisé à ce moment-là. Mais la préfiguration que l'on a dans l'Ancien Testament était déjà une participation à cela. Dans une épître que nous avons entendue ces jours-ci, Saint Paul dit, par la foi Abraham avait déjà vu, par la foi Moïse avait déjà vu, par la foi, et tous les prophètes, par la foi, participaient déjà, par avance, a priori, à un événement historique qui n'était pas encore arrivé. Mais nous qui venons après, notre anaphore à nous, elle est la reprise de tout cela. La communion, la même communion avec tout ce mystère. Et c'est aujourd'hui même que, pour nous, se réalise notre union avec le Christ. Nous dépassons le temps. Nous faisons une certaine expérience de l'éternité, c'est-à-dire de l'au-delà du temps. Le temps nous bloque dans des périodes, dans des dates, dans des moments, dans un présent impalpable. Qu'est-ce que c'est que le présent ? Le présent n'est pas du passé, c'est pas encore l'avenir, mais le présent lui-même, si vous y réfléchissez, c'est presque une abstraction. Le fait même de penser le présent, c'est déjà du passé. Et pourtant, dans notre expérience mystique, dans notre expérience liturgique, le fait de pouvoir participer a posteriori, cette fois-ci, à des événements historiquement passés, mais encore vivants, cela nous fait dépasser le temps et accéder à un autre mode de vie qui est l'éternité, qui est la vie du royaume des cieux. Alors ne dites pas que vous attendez la venue du royaume des cieux, puisque vous y êtes. Le paradoxe de l'Église, c'est que les choses sont déjà réalisées, il faut encore les accomplir. Donc effectivement, c'est déjà là. Nous sommes aujourd'hui dans l'aujourd'hui de Dieu. Aujourd'hui, le Christ naît. Aujourd'hui, le Christ s'assoit, s'assied à la droite de son Père. Aujourd'hui, nous sommes assis à la droite du Père avec le Christ. Et pourtant, historiquement, il faut encore que cela arrive. Mais vous voyez que nous vivons à deux niveaux. Le niveau humain, historique, j'allais dire. Mais par la foi, comme pour Abraham, Moïse et tous les autres dans l'Ancien Testament, comme eux vivaient en préfiguration quelque chose historiquement à venir, nous nous héritons de cela. Nous dépassons le temps pour accaparer, pour participer, pour partager cet ex-moment présent qui est éternellement présent maintenant et que l'on emmène, que l'on assume avec ses difficultés, avec je ne peux pas dire l'angoisse, mais avec le désir de voir tout cela s'accomplir. Donc, s'il y a désir, il y a insatisfaction, parce que ce n'est pas encore totalement en plénitude, il y a une certaine souffrance quand même. Mais la présence de Dieu en nous nous fait transfigurer cette souffrance, et notre attente du royaume à venir est rendue ainsi présente, parce que celui qui est le royaume, ce n'est pas un état de vie, ce n'est pas un changement, ce n'est pas une amélioration du monde, si je peux dire un peu banalement, mais c'est vraiment la participation à la vie d'un être divin, de l'être divin, à travers celui qui s'est incarné, à travers le Verbe qui s'est fait chair et qui nous englobe en lui pour nous faire aujourd'hui participer à sa vie, c'est-à-dire à sa gloire et à son éternité. Qui peut maintenant dire qu'il est digne d'un tel mystère? Moi pas. Je pense que vous allez me dire la même chose. Et quand je dis je pense que vous allez dire la même chose, ce n'est pas un jugement pour vous. C'est parce que comment la créature la plus parfaite pourrait-elle participer à l'être de Dieu, même si elle était parfaite, ce qui n'est pas notre cas. Et pourtant, par sa miséricorde, Dieu nous fait participer à cela. Et si personne d'entre nous peut se dire en lui-même digne de participer à un tel mystère, gardons cette attitude d'humilité, qu'on peut appeler aussi la crainte de Dieu, c'est-à-dire cet effroi intime devant la splendeur des merveilles que Dieu accomplit pour nous, cette merveille, ce mystère que Dieu accomplit pour nous, de nous avons pleinement conscience, enfin en partie, pas pleinement justement hélas, mais en partie conscience d'être indigne, mais avec cette joie immense et cette reconnaissance que Dieu, lui, nous rend dignes et que de créatures que nous sommes, nous fait participants au Créateur lui-même qu'il est. Et ainsi, à côté de ça, nos péchés, nos lamentables péchés, constamment renouvelés, que l'on caresse, que l'on aime, que l'on cultive, auquel on refuse de se détacher, qu'est-ce que ça représente? Ça, c'est notre misère, mais qui n'a aucune mesure avec les merveilles de Dieu. Et si nous voulons progresser un peu dans la nouvelle vie que Dieu nous donne, dans la vie éternelle qu'il nous propose, cessons de se complaire dans la contemplation de notre péché, même par soi-disant humilité, pour essayer de ne contempler, de ne regarder que ne voir que les merveilles que Dieu fait pour nous. Ainsi, il ne peut pas y avoir de progrès dans nos vies et dans notre vie spirituelle s'il n'y a pas une remise totale de notre vie, aussi totale que possible, de notre vie dans les mains de Dieu et une confiance totale dans son salut que nous savons, qui, nous le savons, ne dépend pas de nos forces et de nos réalisations. Ainsi, contemplons le Christ, contemplons sa mère et notre mère, recevons l'Esprit Saint, dirigeons-nous vers le Père, abandonnons les soucis, les joies et les peines de cette vie et accédons à l'aujourd'hui de Dieu, accédons désirons accéder à la réalisation de l'anaphore que l'on trouve dans l'Épître dont je parle aujourd'hui, de manière à ce que toutes ces merveilles, toutes ces annonces, toutes ces réalisations prennent véritablement corps, au sens fort du terme, dans notre cœur, de manière à ce que la venue du Sauveur n'ait pas eu lieu pour rien, mais que véritablement il y ait des hommes qui reçoivent la grâce, cette grâce de l'Esprit Saint, et se laisse transfigurer de manière à donner au monde entier la lumière de la transfiguration. Le monde, je ne vais pas vous décrire ses difficultés, vous les connaissez, vous les supportez, vous les subissez, et elles sont lourdes, humainement parlant. Mais ce monde, en pleine déchéance, comme il l'est depuis l'introduction du péché originel, ce monde n'a besoin que d'une chose, il a besoin d'hommes qui aient reçu avec conscience, c'est-à-dire avec lucidité, la révélation que nous entendons aujourd'hui, à laquelle nous participons aujourd'hui, pour que la paix qui est la leur, au-delà de toutes les difficultés, se communique au reste du monde, même si ce reste du monde n'a pas les sens, n'a pas les organes, si je puis dire, ou éteigne les organes de compréhension, de vision de ce monde qui les dépasse. Mais par cette consécration qui doit être la nôtre, dans le sens où je vous le dis, par cette consécration qui est la seule manière de participer à notre salut, même si le monde ne le voit pas, c'est un phénomène qui se répand dans le monde et qui donne le salut à tous les hommes. De même que des grains de sel ont une certaine saveur, et quand vous le mettez dans la soupe, c'est toute la soupe qui a cette saveur. Un autre avait trouvé une image beaucoup plus belle avec le pain, mais je m'en laisse le levain, je lui laisse l'expression. Mais nous devons être comme ces grains de sel ayant reçu l'Esprit Saint pour être jetés dans le monde, moulus dans le monde, écrasés dans le monde, invisibles dans le monde, mais entrant dans le cœur du monde, de manière à ce cœur du monde soit changé et devienne véritablement aujourd'hui le royaume des cieux sur la terre, comme nous le prions dans notre Père, que ta volonté soit faite comme au ciel sur la terre. Amen.